Et dans ces phénomènes de production du religieux, dans l'islam en question, en France même, je crois qu'une dimension fondamentale doit être introduite. C'est une dimension qui m'avait frappé quand je faisais des enquêtes dès la fin des années 80 en France, où je m'intéressais à la montée du racisme ou à la violence, et où donc j'ai beaucoup enquêté dans les quartiers populaires, dans des milieux très très populaires. C'est que la montée de l'islam avait et a quelque chose à voir avec la crise de notre modèle d'intégration républicaine. Gilles Kepel vient de publier je crois qu'il est annoncé pour ce colloque.
Non, il va être remplacé. Il sera pas là.
Bon, mais enfin, en tout cas, dans des ouvrages récents financés par la Fondation, l'Institut Montaigne, il vient de montrer quelque chose qui me semble être patent depuis assez longtemps, il le montre avec grande force, c'est que là où la République n'est pas présente, certaines formes d'islam prospèrent plus facilement que là où elle est présente, pour le dire très très vite. Quand la République n'est pas pour tout le monde synonyme de liberté, d'égalité, de fraternité, quand les institutions républicaines fonctionnent mal, ne tiennent pas leurs promesses ou ne les tiennent pas pour tout le monde, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a, pour reprendre le titre d'un autre livre célèbre, des territoires perdus de la République qui se constituent, et ces territoires perdus de la République, eh bien ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Et ils deviennent des territoires où prospèrent en particulier des formes de religiosité singulières, assez sectaires, assez repliées sur elles-mêmes. C'est pas forcément de la violence et du terrorisme, c'est du salafisme, c'est beaucoup d'autres choses. Ça peut être du quiétisme, ça peut être bon, toutes sortes de variantes de l'islam. Qu'autrement dit, et c'est ça le point sur lequel je voudrais vous insister, avant de dire que la laïcité est menacée par l'islam, et dans la mesure où vous acceptez l'idée que la laïcité fait partie de la République, appartient à notre idéal républicain, il faut dire que les défaillances ou les carences de notre modèle républicain fabriquent cet islam dont ensuite certains disent avoir peur pour la laïcité. Vous voyez le raisonnement que je vous propose, ce n'est pas le raisonnement spontané. Et donc, je pense moi que ce sont les difficultés, je ne dirais pas l'échec, mais les difficultés de la République, y compris donc en incluant le principe de laïcité, qui contribue à renforcer la poussée de l'islam en France et ensuite à nourrir des inquiétudes sur l'islam. Ce qui veut dire, j'y reviendrai bien sûr, ce qui veut dire que nous devons réfléchir aussi aux conditions d'exercice de ce principe de laïcité de façon concrète et pas simplement de façon trop abstraite. Mon quatrième point, c'est pour évoquer maintenant comment sont nés se sont diffusées, comment ont fonctionné ces inquiétudes en France sur l'islam. Alors ce sont des choses bien connues, et je vais être extrêmement rapide là aussi, très allusif, mais je crois qu'il faut avoir ça en tête. En gros, je laisse de côté la préhistoire, il y a une préhistoire, l'islam est en France, après tout la mosquée de Paris a été construite dans l'entre-deux-guerres, mais enfin, l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, me semble-t-il, commence réellement au milieu des années 70. S'il fallait proposer une date, ce serait un peu artificiel. C'est aussi artificiel que de dire que la chute du mur de Berlin, c'est la fin du communisme, enfin, réel. Ben, on peut dire que ça avait peut-être commencé avant. Mais enfin, une date intéressante, c'est 1976, c'est-à-dire le regroupement familial. Car, assez rapidement, dans un contexte qui est en même temps un contexte de désindustrialisation, de suppression d'une bonne partie de la main-d'œuvre immigrée non qualifiée servant dans les grandes forteresses ouvrières qui vont commencer à se transformer massivement. Dans ce contexte-là, il y a la loi sur le regroupement familial, si je simplifie à l'extrême, elle va, selon les termes du rapport Essel qui a été publié dans les années 80, transformer une bonne partie d'une immigration qui était une immigration de travail en immigration de peuplement. Au lieu d'avoir des célibataires mâles vivant en foyer ou dans des hôtels chez les marchands de sommeil et n'ayant qu'une idée, faire des économies et rentrer au pays, on va avoir des gens qui disent « Je reste en France, je ne suis plus défini par le travail parce que je suis de plus en plus souvent chômeur, je suis plutôt exclu socialement, mais j'ai femme, j'ai enfant, je m'inclus dans la vie civique, dans la vie générale de la France. » Et donc, tout va commencer à se renverser dans ce contexte-là, et on va commencer à prendre conscience de ces changements dès le début des années 80, parce que tout ça n'est pas évident au départ, avec les premières affaires que je vous rappelle, aux plus anciens d'entre nous en tout cas, ce sont les affaires de ces usines, je crois que ce sont les usines Simca, en tout cas les usines automobiles, début des années 80, où on apprend que la direction favorise l'islam sur le lieu de travail, en particulier possibilité de faire la prière, pour affaiblir les syndicats. Bon, parce que c'est ça aussi la réalité. Et puis, on se met à parler de plus en plus d'islam, et arrive en 1989, la première, à l'époque on ne sait pas que c'est la première, l'affaire du foulard. Et là, évidemment, se développe un imaginaire inquiet, hostile pour chez beaucoup à l'islam et aux musulmans, et un imaginaire qui va mêler des éléments contemporains à des éléments évidemment historiques. Je ne sais pas si les programmes scolaires ont beaucoup évolué, je regrette que mon ami Jean-Michel Blanquer ne soit plus là, il aurait peut-être pu me dire où nous en sommes, mais peut-être que Nelson pourra le faire. Mais enfin, moi quand j'allais à l'école, on m'apprenait qu'en 732, heureusement, Charles Martel avait arrêté les Arabes à Poitiers, et Arabes et musulmans à l'époque on n'avait pas tellement appris à faire la différence, et puis on m'apprenait ensuite que Saint-Louis et quelques autres étaient allés jusqu'à Jérusalem pour reprendre le tombeau du Christ qui était tombé aux mains des infidèles, voilà ce qu'on m'apprenait à l'école laïque, enfin c'est des souvenirs que j'en... etc. Bon, sans parler alors la colonisation, etc. Bon. Et donc si vous voulez, il y a tout un passé très français, très lourd, d'une relation... de guerre, de violence, de domination, de colonisation, de guerre de décolonisation mal digérée. La France n'a toujours pas digéré la guerre d'Algérie. Il y a tout ce passé qui remonte, dès qu'il est question en France, de l'islam. Et donc, il y a une dimension historique extrêmement forte. Et en même temps, que certains donc, faisaient part de leur inquiétude, l'islam pénètre l'école publique. En même temps, d'autres inquiétudes étaient parfois soulignées de façon nette et forte, mais quand même moins majoritaire, si vous voulez, c'est quand même, disaient certains, le fait que les musulmans en France relèvent des catégories sociales les plus défavorisées, dans l'ensemble, que les musulmans de France ne peuvent pas exercer leur culte convenablement, qu'ils prient dans des garages. Heureusement, de temps en temps, nous disait-on, des églises catholiques ou des temples protestants ouvrent leurs portes à des musulmans pour qu'ils puissent prier. Voilà les choses qu'on pouvait nous dire. Mais enfin, comment se fait-il que ce pays soit incapable d'apporter des lieux de prière décents, de la nourriture halal à ceux qui en ont le désir, des carrés musulmans dans des cimetières, ce genre de choses. Et la réflexion est même allée parfois très loin. Je me souviens de travaux qui m'ont passionné de Farhad Khosrokavar sur les musulmans en prison. Je crois que son livre s'appelle, je l'ai noté quelque part. Bref, l'islam dans les prisons, voilà, de Khosrokavar. Bon, en prison, il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, si vous étiez juif ou si vous étiez catholique ou si vous étiez protestant, vous aviez le support d'un rabbin, d'un pasteur, d'un prêtre, vous aviez la possibilité de prier, etc. Si vous étiez musulman, vous n'aviez rien de tout ça. Et comme vous n'aviez rien de tout ça, c'était la porte ouverte à la radicalisation chez certains détenus. Pas chez tous, bien sûr. Alors vous voyez, des inquiétudes apparaissent de tous les côtés. Certains disent, nous sommes menacés, envahis, etc. D'autres disent, on se comporte mal à l'égard des musulmans. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de débats. Il y a des pics dans les tensions, puis il y a des moments où, au contraire, cela retombe. Il y a des moments aussi où il y a beaucoup d'excès dans la médiatisation. Et si vous voulez avoir une idée des excès dans la médiatisation, il faut lire des documents non pas français, mais des documents que Jean Bobéro d'ailleurs connaît très bien, qui sont les documents produits par une commission québécoise qui s'appelait la commission Bouchard-Taylor. Bouchard, un historien, Taylor, un philosophe. C'est une commission qui avait été mise en place par le gouvernement québécois parce qu'ils avaient plein d'affaires du genre, des affaires du foulard, qui jaillissaient régulièrement dans la presse et donc ils s'inquiétaient énormément. Et le philosophe et l'historien ont mis en place tout un dispositif, de très nombreuses enquêtes, des rapports, c'était très très lourd, beaucoup d'auditions publiques, enfin il s'est passé énormément de choses. Et parmi les principales conclusions de Bouchard et Taylor, il y a eu le constat, je crois vraiment imparable, selon lequel les médias passaient leur temps à amplifier et parfois même à inventer les problèmes. Alors je ne dis pas qu'en France les médias ont passé leur temps à inventer ou à amplifier tous les problèmes liés à l'islam, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de passion et quand même assez souvent beaucoup de dramatisation quand il s'agit de parler des difficultés liées à l'islam. Mais il y a eu aussi des moments où on a calmé le jeu. On peut en citer deux, et les deux sont d'ailleurs à mettre à l'actif de Jacques Chirac. C'est la commission, je ne sais plus son nom exact, sur l'identité nationale, enfin sur la... Sur...
Pardon ?
Non, non, avant, bien avant, il avait mis en 87 ou 88, une... Alain, sans... hein ? Sur la nationalité, qui avait calmé le jeu déjà, présidé par Marceau Long, qui avait fait un rapport sur ce genre d'enjeu, et quelques années plus tard, la commission Stasi, qui également, je ne sais pas si Jean Bobéro vous en a parlé, il en faisait partie, mais enfin, une commission qui avait beaucoup travaillé, et qui a fait une seule, enfin, dont on a retenu une seule proposition sur les 26 ou 23 qui avaient été faites, c'est cette proposition qui a débouché sur la loi relative aux signes ostensibles d'appartenance religieuse à l'école. Une loi votée en mars 2004 avec un très large consensus politique et des réserves pourtant dans certains milieux militants ou intellectuels. Alors, je ne reviens pas sur tout ceci, c'est juste pour vous dire que j'ai essayé dans un premier temps de vous indiquer comment l'islam était à la fois un produit d'immigration et un produit du travail de la société sur elle-même, et je viens d'essayer de vous montrer, de façon évidemment certainement trop rapide, mais comment l'islam a été source et est source de tensions, d'inquiétudes, mais qui ne sont pas à sens unique. C'est ça que j'ai voulu vous dire. Alors, je me rapproche de ma conclusion. Aujourd'hui, le problème du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme en France n'est pas un problème décisif ou majeur, malgré le discours du Latran dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a bien le... Il est bien clair que ça n'est pas là où se jouent les tensions, les difficultés, les problèmes de la société française. La question, elle est évidemment de savoir comment régler les tensions suscitées par l'islam, mais j'y reviendrai dans un instant, et pas seulement, les tensions qui naissent de l'existence en France de deux positions principales possibles face à une réalité incontournable qui est la présence de l'islam dans notre société. Les uns disent « la laïcité doit nous aider à mettre l'islam au pas, et peut-être à nous débarrasser d'un certain nombre de musulmans ». Ça n'est pas dit comme ça, bien sûr, enfin, c'est ce que ça veut dire. Donc, le lien est fait entre l'islam et l'immigration et l'idée d'une menace pour la République, pour le vivre ensemble, d'un côté. Et d'un autre côté, l'idée au plus loin, je pense, de la précédente, qui consiste à dire « l'islam existe en France ». Il faut que la laïcité lui permette d'exister comme les autres religions, liberté de conscience, liberté de culte. Et par conséquent, il faut réfléchir au fait que l'islam n'est pas dans la même situation que le catholicisme, et encore moins la même situation que ce qui pouvait être celle du catholicisme en 1905. En 1905, le problème était l'inverse du problème actuel. Il fallait séparer les églises, commencer par l'église catholique, de l'État. Aujourd'hui, le problème n'est pas de séparer l'islam de l'État. C'est l'inverse. Le problème, c'est de voir comment faire en sorte que l'islam puisse bénéficier, comme les autres religions, de la liberté de culte, de la liberté de conscience, qu'il ne soit pas discriminé dans une situation où, si je puis dire, il vient de très loin. C'est tout le contraire. Il s'agit non pas de le séparer, mais, d'une certaine façon, de l'intégrer. Et la question de ce deuxième point de vue est donc de savoir dans quelle mesure la loi de 1905 permet-elle, cette fois-ci non plus de séparer, mais d'intégrer une religion. C'est évidemment ce deuxième point de vue que je défends, avec en particulier l'idée que toute autre politique, une politique d'intégration, ne peut que radicaliser les citoyens de confession musulmane, les exclure, les enfermer dans des communautés centrées sur elles-mêmes, les diaboliser, etc. Bref, ne peut être que néfaste pour les musulmans et pour la société tout entière. Je voudrais insister sur un point. C'est que ça n'est pas faire de la grande sociologie que de vous dire que les musulmans de France présentent trois caractéristiques principales. La première, c'est qu'ils relèvent socialement plutôt de milieux populaires. Si vous allez aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Hein, aux États-Unis, les musulmans sont très souvent membres de ce qu'on appellerait les couches moyennes. Donc ils sont de milieux populaires et souvent pauvres. Deuxième caractéristique, non pas là encore de tous les musulmans de France, mais d'une bonne partie d'entre eux, ils sont issus d'une décolonisation mal assurée ou mal digérée. Et enfin, troisième caractéristique, que j'évoquais également déjà tout à l'heure, ils vivent dans des espaces, des territoires où les carences de la République sont patentes. C'est un fait, je crois. Et donc, si nous voulons promouvoir une laïcité qui ne soit pas une laïcité de rejet, d'expulsion, de diabolisation, de disqualification, etc. Si nous voulons utiliser la laïcité pour intégrer une religion et ceux qui la portent, alors il faut savoir que ce ne sera possible que si l'on prend en compte les trois dimensions que je viens d'évoquer, et pas seulement la dimension strictement religieuse, ou si vous voulez, pas simplement parler au nom de principes abstraits. Si nous pensons laïcité à propos de l'islam, nous devons en même temps penser à la question sociale, question des inégalités, des injustices, de l'exclusion, de la précarité, tous ces thèmes en général. Nous devons deuxièmement penser à la question du passé colonial. La France, contrairement à d'autres pays, est une société post-coloniale. Si vous allez en Inde, ça m'est arrivé il y a quelques mois, j'étais très impressionné, l'Inde n'est plus post-coloniale. Elle est au-delà du post-colonialisme. Elle a digéré, si je peux dire, la décolonisation. Nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas. La France, regardez comment, dès qu'il est question de la guerre d'Algérie, comment nous sommes en conflit, en contradiction, mal à l'aise, etc. Donc, premièrement, prendre à bras-le-corps la question sociale. Deuxièmement, prendre à bras-le-corps la question du passé colonial. Et troisièmement, prendre à bras-le-corps la question du retour de la République dans les territoires où elle est moins présente ou insuffisamment présente. Voilà ce qui me semble nécessaire d'envisager pour accompagner des efforts s'appuyant sur le principe de laïcité. Je vais vous le dire autrement, dans un autre vocabulaire, qui trouve ses sources chez Hegel et chez Marx. Hegel et surtout Marx ont critiqué l'universalisme abstrait. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des grandes valeurs universelles, qui sont magnifiques, mais que dans la réalité concrète, on ne voit pas comment elles peuvent s'appliquer. Eh bien, je pense que si nous voulons éviter de faire de la laïcité un principe abstrait, nous devons non seulement en faire un principe, mais nous devons nous poser toutes ces questions sur l'emploi, les inégalités, le passé colonial, etc. en même temps. Nous devons, je ne suis pas du tout favorable, vous l'avez compris, à l'idée de laïcité positive. Par contre, je suis très favorable à l'idée, pour le dire comme ça, d'une laïcité concrète. Si nous ne le faisons pas, si nous mettons en avant un principe abstrait de laïcité, sans en même temps accompagner, en quelque sorte, ce principe d'un certain nombre de propositions très concrètes, eh bien, au mieux, le discours sera une incantation, et au pire, il sera facteur de violence, de rupture, d'émeute, tout simplement parce qu'il apparaîtra comme à côté de la plaque par rapport aux réalités vécues de ceux qui sont les premiers concernés. Si je vous dis liberté, égalité, fraternité, vive la République française, vive l'école laïque, etc., et que vous habitez dans un quartier qui est quasiment un ghetto, que l'école où vous allez est plus peuplée uniquement d'enfants comme vous, ou qu'en tout cas on vous met dans des classes qui sont des classes destinées uniquement à des enfants comme vous, etc., ben il est évident que non seulement ce discours vous semblera lointain, mais ce discours vous mettra dans un état de rage. Qu'est-ce que c'est que ce discours universel? Qu'est-ce que c'est que ces promesses que l'on me fait sans me donner les moyens, comment dirais-je, d'accéder à ces promesses? Et donc, je crois qu'il faut évidemment, non pas refonder la laïcité, mais réfléchir et s'assurer du lien, de l'affirmation du principe avec des politiques concrètes. Je voudrais ajouter une dernière remarque, ou peut-être deux dernières remarques, si j'ai encore une minute, mais ce sera très bref. Je crois qu'une telle application de la laïcité passe par une autre séparation que celle que de 1905, par en fait une indépendance. C'est l'indépendance du culte musulman français par rapport à des États étrangers. Là, oui, il faut une séparation. Car dans le vide qui a régné en France très longtemps, en ce qui concerne la production d'imams en particulier, ou la construction de lieux de culte, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a laissé faire des États étrangers qui nous ont envoyé des imams, qui ont envoyé de la propagande et pas simplement de la religion. Bref, autrement dit, je crois qu'il faut articuler ce principe de liberté de culte à une idée d'indépendance de l'islam de France par rapport aux États, à certains États. Et qu'il existe des possibilités, je ne suis pas un technicien, il y a des gens très compétents qui vous diront qu'on peut utiliser la loi de 1905 ou la jurisprudence qui est issue de la loi de 1905. Par exemple, on n'a pas le droit de construire des lieux de culte comme ça en France, puisque les lieux de culte, c'est pas à l'État de les construire. Par contre, on peut donner des baux emphytéotiques, m'a-t-on expliqué, pour des terrains destinés à la construction de lieux de culte. Bon, on n'a pas le droit de financer directement le culte, mais on a le droit de garantir des emprunts qui permettront de financer le culte. Enfin, avec de l'esprit démocratique et de l'esprit laïque, je crois qu'on peut trouver des solutions techniques, juridiques en particulier, pour mettre en place des montages qui vont renforcer l'indépendance de l'islam dans notre société. J'ajoute très rapidement encore deux remarques. La première, c'est que vous vous souvenez, il y a deux mois, le 8 avril dernier, il y a eu un drame à Stain, où le plancher d'un bâtiment qui était un lieu de culte évangéliste a lâché, il y a eu des morts, des blessés, c'était quelque chose de dramatique. La question n'est pas seulement celle de l'islam. La question centrale, compte tenu de tout le poids de l'imaginaire que j'ai évoqué, c'est l'islam, mais il y a aussi en France des nouvelles religions qui se retrouvent aussi, elles aussi, comment dirais-je, ne disposant pas de toutes les ressources dont elles auraient besoin pour que le culte soit exercé normalement, pentecôtistes, évangélistes en particulier. Donc la question n'est pas simplement pour l'islam. Et puis, je voudrais terminer par une toute dernière remarque pour dire que s'il s'agit du principe même, ou des principes, des valeurs, ce mot qui est venu, alors on ne nous a parlé que de valeurs ces derniers temps, mais s'il s'agit de rappeler les principes ou les valeurs qui fondent l'islam, et s'il s'agit d'être, comme je l'ai dit, concret, pragmatique, je crois aussi qu'il faut éviter toute action qui serait un peu trop irréfléchie ou un peu trop rapide ou un peu trop idéologique, je vais le dire comme ça, sans préoccupation des réalités concrètes. J'évoquais ce matin, donc j'en redis juste un mot, ce projet du candidat François Hollande qui voulait appliquer partout sur l'Hexagone la laïcité, telle que nous la connaissons ici à Paris, y compris donc en Alsace et en Moselle. Eh bien, il suffit de discuter avec des Alsaciens ou avec des Mosellans pour voir que c'était déclenché beaucoup de passion et beaucoup de problèmes pour des populations qui vivent très bien comme elles vivent. Et je crois que si on veut aller aussi dans les confettis de l'ancien empire français, dans ce qui nous reste, on arrive dans des situations qui nous semblent, vues d'ici, extrêmement éloignées de la laïcité à laquelle nous pouvons rêver. Je ne dis pas du tout qu'il faut accepter ces situations. Mais je pense que toutes ces situations appellent une action bien sous-pesée, bien mesurée, et qui tienne compte de l'état d'esprit de ceux à qui on va l'appliquer. Ce principe de sécularisme que j'ai évoqué tout à l'heure, je ne crois pas qu'on puisse imposer notre conception de la laïcité à des populations qui en seraient radicalement et intégralement ou presque éloignées. Donc voilà l'ensemble des problèmes que je voulais évoquer. En vous disant donc qu'il ne me semble pas nécessaire de refonder la laïcité, il me semble beaucoup plus utile de se demander comment l'appliquer intelligemment, comment l'appliquer concrètement. Voilà, je vous remercie de votre patience.